Hugues Dollier, bonjour.
Oui, bonjour Sandra, bonjour à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, on va voir un cinquième pilier du mariage chrétien et il ne figure nulle part dans les textes officiels. De quoi s'agit-il?
Oui, alors, en fait, c'est une idée qui est, mais qui, c'est pas une idée de moi, hein, c'est une idée qui est venue de Cédric Burguin, qui est un prêtre de Paris, qui s'occupe de tout ce qui est officialité, les demandes d'annulation de mariage, enfin, voilà, qui est un canoniste, donc quelqu'un de très spécialisé dans le droit canon, et qui, lors d'une conférence que j'avais écoutée, avait dit, il faudrait ajouter un cinquième pilier, qui est le bien des conjoints et l'éducation des enfants. Alors, c'est pourquoi ce cinquième pilier? Alors, en réalité, je vous explique en deux mots, vous allez vite comprendre. Pour qu'un mariage catholique soit valide, il faut quatre conditions, les quatre piliers, les quatre fondements qu'on a vus depuis le début là, de cette année, qui sont donc l'engagement libre, ça c'est le premier pilier, ensuite de vivre, ce mariage est un mariage indissoluble, hein, donc qui est pour toute la vie, que l'on va vivre de façon fidèle, hein, donc on va rester avec son conjoint, on ne va pas aller à droite à gauche, hein, et puis le dernier point qui est ouvert à la vie, donc qui est une dimension d'accepter la naissance d'enfants, voilà, qui est une fécondité, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de refus de la fécondité. Voilà, donc ça, ce sont les quatre piliers. Alors, si on remplit ces quatre conditions, eh bien, c'est un mariage catholique. Voilà. Et le cinquième pilier dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas un pilier en tant que tel, c'est plus une finalité, comme le dirait saint Thomas d'Aquin, hein, qui parle de la finalité première, finalité seconde. C'est dire un peu, mais pour que. Alors, je le mets pilier dans le sens où pour dire, mais pour faire un mariage catholique, voilà, il faut vouloir librement s'engager avec quelqu'un pour vivre fidèlement dans un mariage qui sera pour toute la vie et de ce mariage accueillir les enfants. Mais ça suffit pas, voilà. C'est-à-dire que ça suffit pas dans le sens où on pourrait aussi très bien, eh bien, créer un mariage dans lequel chacun va vivre l'un à côté de l'autre, un peu comme en parallèle, et oublier de prendre vraiment bien soin de tous les gens qui nous sont confiés. D'abord notre conjoint, et puis les enfants. Voilà. Alors, pourquoi cela? Parce que si on se marie avec quelqu'un en disant, mais moi, je vais être fidèle, je vais être impeccable, je serai fidèle à ma femme, toute ma vie, je serai avec elle, on va avoir des enfants. Mais en fait, finalement, eh ben, je ne vais pas m'y investir, je ne vais pas y mettre mon cœur, je vais pas, voilà, donc je serai à la maison, voilà, je serai là, mais je ne vais pas y mettre tout mon cœur. Ben, ce n'est pas ça vraiment le mariage chrétien, tel que Jésus l'a voulu, tel que l'Église le veut. L'Église, elle ne dit pas simplement restez l'un à côté de l'autre toute votre vie, supportez-vous, vous parlez le moins possible, hein, pour pas faire de vagues, et puis ça ira comme ça, puis surtout on ne divorce pas parce que ça ne se fait pas, c'est indissoluble, hein, et puis voilà, puis ben, vos enfants, vous leur donnez à manger, puis ça ira bien comme ça. Voilà. Non, c'est plus que ça. Il faut vraiment que le jour où on s'engage, et c'est pour ça que je remets ça comme un pilier. C'est-à-dire que le jour où on s'engage dans le mariage, qu'on comprenne que ce n'est pas simplement je vais rester à côté de ma femme et de mes enfants toute ma vie, ou de mon mari, hein, voilà. Mais c'est de se dire je m'engage je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Voilà, mais pour t'aimer. Donc il y a une notion d'aimer, hein. Et donc cet amour va consister justement dans le bien du conjoint. Et puis dans l'accueil et aussi l'éducation des enfants. Hein. Alors, évidemment, vous allez me dire, si on ne peut pas avoir d'enfants, qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, alors le cinquième pilier, bah, ce sera le bien des conjoints, hein, et puis la fécondité de notre couple. Hein, voilà. Donc vous allez traduire, quand je parle de l'accueil et de l'éducation des enfants, vous allez traduire par voilà, c'est-à-dire. L'accueil, ça peut être aussi l'adoption d'un enfant, hein, si on ne peut pas avoir d'enfant biologique. Hein, donc l'adoption et l'éducation de ces enfants. Hein, et puis en ce moment, avec l'année Saint-Joseph, on en parle et on en parle et on en parle encore, hein, de Joseph qui accueille comme son propre enfant Jésus pour l'éduquer. Voilà. Et puis si on n'a pas d'enfant adoptif, qui est la fécondité du couple, l'accueil. Et l'accueil de cette fécondité et le soin de cette fécondité. Voilà. Mais donc, je parlerai plutôt, bon, aujourd'hui, d'éducation des enfants, qu'ils soient biologiques ou adoptés. Voilà. Et puis, surtout, le bien des conjoints. Alors, ça, c'est une notion qu'on retrouve, par exemple, dans le... un petit peu, hein, c'est un peu cette idée-là qu'on retrouve dans le mariage civil, où on a un devoir de mutuel secours. Hein, voilà. Donc, c'est pas simplement on vit sous le même toit et on a un même code fiscal, mais c'est aussi le fait de dire qu'on se porte secours mutuellement, donc on prend soin l'un de l'autre. Voilà. Alors, dans le mariage chrétien, c'est donc le bien des conjoints. Alors, je vais vous lire le catéchisme de l'Église catholique, c'est l'article 1601, voilà, pour vous montrer finalement que ce que je vous raconte ce matin, c'est pas simplement un truc que je me suis inventé comme ça pour histoire de faire un cinquième pilier. Je vous lis. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entrebaptisée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Donc en réalité, ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est que le Christ Seigneur a fait de cette union naturelle, hein, qui est l'union d'un homme et d'une femme pour le bien des conjoints, la génération, l'éducation des enfants, est devenu un sacrement. Voilà. Mais à la base, c'est quelque chose de naturel. C'est pour ça que je vous dis que dans le mariage civil, on retrouve aussi le secours et le support mutuel des époux et la responsabilité d'éduquer les enfants. Hein, on doit donner tout ce qu'il faut pour nos enfants. On ne doit pas les maltraiter. Hein, voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Ça veut dire concrètement que cette finalité, hein, qui est là, on doit vraiment la prendre au sérieux. Alors, je voudrais tout de suite faire attention, c'est que il y a une grande méprise sur le mariage en général. Le sacrement de mariage, ça, il passe avec, hein, mais c'est dans le mariage en général. C'est que les gens pensent que la finalité du mariage, c'est de devenir heureux, pouvoir se réaliser soi-même, avoir une vie amoureuse, voilà, avoir une vie sympa, en fait, voilà. On se marie ben, parce qu'on est amoureux et on veut que cet état amoureux dure toute notre vie. Voilà, moi, je suis trop fou, je suis fou amoureux de cette jeune fille, je vais l'épouser et on va rester ensemble amoureux toute notre vie, voilà. Donc, je ne sais pas, déjà, si vous avez deux ou trois enfants adolescents à gérer, vous allez voir que ce n'est pas forcément une grande fête tous les jours, hein, c'est parfois un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans notre société, on a rendu le divorce un peu, enfin, normal et même automatique. Si on dit, je ne suis plus amoureux, hein, j'ai plus cette flamme comme j'avais au premier jour, donc ben, on ne s'aime plus, on se quitte. Voilà. Et puis, si on a une difficulté, que ce soit une difficulté de l'ordre de la sexualité, voilà, je n'ai pas une vie sexuelle épanouie comme je voudrais, donc je change de conjoint. Ou ben, si on rencontre une difficulté, que ce soit une difficulté matérielle ou une difficulté psychologique, quelle qu'elle soit. Hein, voilà. Et si, quand on a des enfants, ben, des difficultés, évidemment, elles arrivent. Mais enfin, même pas sans avoir d'enfants, c'est le fait de vivre en communauté de nos jours, c'est cela. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai dit le cinquième pilier, certains auraient pu dire, mais non, mais c'est pas ça. Le cinquième pilier du mariage catholique, c'est de pouvoir créer une communion de bonheur entre l'homme et la femme et les enfants, et qu'on va tous être à nager dans le bonheur, dans la joie d'être ensemble, tous les jours, etc. Alors, vous aimez dire, oui, mais moi, je connais des... Oui, bien sûr, tant mieux. Il y a des couples, il y a des familles où c'est l'harmonie parfaite. Enfin bon, c'est ce qu'on voit parfois. Il faut regarder un peu parfois à l'intérieur On découvre parfois des choses un peu plus sordides que que la façade. Mais enfin, bon, je le souhaite qu'on soit effectivement dans une belle harmonie familiale où chacun s'écoute et où chacun est respecté, où chacun est soucieux de l'autre et où, voilà, où ça soit le grand bonheur. Hein. Voilà, je le souhaite. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un espèce d'idéal de bisounours, voilà, de Alice au pays des merveilles, on est dans dans la vraie vie. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est-à-dire que ce principe, pour l'exprimer, parce que je reviens toujours hein, au sacrement de mariage, c'est-à-dire à ce premier jour, à cet engagement, c'est que quand on est en train de passer l'alliance hein, au doigt de son conjoint, ben, il y a cette notion de se dire, maintenant, on n'est plus, plus deux, mais on va devenir que un. C'est-à-dire qu'on va former un équipage, on va former une team, là, hein, on va former une équipe et avec les enfants, hein, ça va être une famille. Et voilà. Et donc, peut-être que moi, je vais être faible, mais je pourrai compter sur l'autre qui sera fort. Et puis après, l'autre deviendra peut-être faible, mais c'est moi qui serai fort. Hein. Et donc, déjà de chasser la notion d'égalité, parce que. L'égalité, ça veut rien dire, l'égalité dans un couple, enfin ça, voilà, ça a pas de sens, hein, l'égalité dans un couple. Chacun a des points forts, des points faibles, puis l'un est un homme, l'autre est une femme, donc c'est de toute façon pas, c'est pas compliqué, c'est pas simple. Il peut y avoir des soucis de communication, et puis etc. Voilà, et bon, on peut pas avoir la belle carrière de monsieur et la belle carrière de madame. C'est soit il y en a un qui fait une belle carrière et l'autre vient aider, soit réciproquement, mais j'ai jamais vu dans un couple qui a deux magnifiques carrières et en plus, au milieu de ça, une vie de couple et vie de famille, parce que sinon, c'est pas possible. Hein. Donc, je veux dire, j'ai pas vu, je sais pas, quelqu'un qui est président de la République et puis sa femme, elle est, je sais pas quoi, voilà. Et en même temps, ils arrivent à avoir une vie de couple normale, quoi. Hein. Donc, ça marche pas, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire cette notion d'équipage, hein, de. Voilà, on va être on va être un par cet engagement-là et soucieux de l'autre. Beaucoup de couples aujourd'hui, ce sont des alliances d'égoïsme et de narcissisme. Hein. C'est voilà, c'est d'abord mon bien-être, mon épanouissement. Voilà, et alors c'est deux égoïsmes qui se mettent ensemble. Hein. Ils s'aiment, hein. Ils sont amoureux, ils s'aiment, etc. Ils veulent fonder une famille, mais ils sont tellement, tellement préoccupé par est-ce que je vais conserver, il faut que je m'occupe de ci, de ça. Enfin, il a toute une liste de choses non négociables qui fait que la vie à deux, finalement, ce sont un peu des vies parallèles où chacun essaye de conserver ses privilèges. Voilà. Alors, aussi un point qui est important, mais on le dit, on le sait, mais on le redit, ça fait pas de mal de le redire, hein, c'est que le sentiment amoureux disparaît et devient de l'amour. Donc, l'émotion amoureuse, le cœur qui bat à 110 battements à l'heure quand je vois ma bien-aimée, ce sentiment amoureux, il dure à peu près entre 6 mois et 2 ans, 3 ans et 4 ans, quoi. Enfin, bon, par là. Puis après, il s'estompe. Voilà. Il s'estompe. Et sauf à rompre et à redémarrer une nouvelle romance avec une nouvelle femme, on n'arrive pas à maintenir le sentiment amoureux. Parce qu'un sentiment amoureux, c'est une émotion voilà, qui sert à ce que l'homme et la femme se rencontrent, mais c'est pas, ça dure pas. Après, c'est ce qu'on fait, ce qu'on construit, c'est de l'amour. Voilà. Et donc, ça veut dire on va prendre bien soin de l'autre, on va aimer l'autre, hein, qui est plus un acte volontaire. Et voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment amoureux. Quand, bien sûr que, comme disent tous les conseillers conjugaux, emmenez votre femme, faites un week-end en amoureux. Bon, en ce moment avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais enfin l'idée c'est cela. Une fois régulièrement, on laisse ses enfants aux grands-parents ou à des amis, et hop, on s'enfuit. Voilà, et on retrouve cette fraîcheur. On va aller faire un tour. Voilà, on se loue une chambre d'hôtel à côté de la plage, et puis on va se passer un week-end que pour nous, et puis on va aller au restaurant et on mettra des bougies, et c'est joli. Voilà, et ça, c'est bien. Donc, de recréer une ambiance, hein, de façon à ce qu'il y ait de l'émotion amoureuse. Donc ça, c'est bien. Mais c'est ça, je veux dire, c'est pas le quotidien de tous les jours. Le quotidien de tous les jours, c'est l'amour qu'on construit. Et là où on aime le plus, hein, finalement, c'est plus peut-être dans les difficultés que dans les choses faciles. Hein. Moi, je dis toujours, est-ce qu'on aime plus un enfant de 3 ans qui fait ses... Enfin, à 3 ans, il a déjà fait ses premiers pas, mais enfin, qui commence à faire ses petites blagues, ses petites répliques, qui est tout sucre, hein, tout mignon, ou un ado de 15 ans qui est en train de négocier parce qu'il veut aller passer... un week-end chez des copains et que vous aimez pas trop ces copains-là parce qu'ils ne sont pas de très bonne influence. Voilà. Quand est-ce qu'on aime plus son enfant? Voilà. Ben moi, je pense qu'on l'aime plus quand il est ado, quoi. Parce que là, on va vraiment, vraiment, vraiment se dire, il faut que je m'occupe bien du bien de mon enfant. Hein, du bien de mon enfant, qu'est-ce qui est bien pour lui? Voilà, alors je vais faire un effort, mais c'est un petit peu un boulot qu'être parent, hein. Mais c'est ça aussi qu'aimer, ça sera vraiment aimer. Voilà. Et pareil avec notre conjoint, hein. C'est pas forcément la première année qu'on aime le plus notre conjoint, hein. C'est parfois quand il traverse des moments difficiles, eh ben, c'est là qu'on est vraiment un secours, une bienveillance, hein. Est-ce qu'on aime plus quand on fait un bisou à sa femme ou quand on pardonne à sa femme. Je pense que le pardon, c'est une belle marque d'amour aussi. Voilà. Hein? Alors, je ne dis pas qu'il faut voir les choses négativement. Hein. Je dis construisons de la complicité, ce qu'on appelle créer du souvenir. Créons du positif, hein, un maximum de bons moments pour que, ben, quand les choses. Vous savez, quand il y a un peu de tempête qui arrive, ben on se souvient qu'il y avait aussi des bons moments, donc c'est bon, quoi. Voilà, il faut profiter des bons moments pour créer, voilà, cette solidité du couple, de l'équipe sur la barque pendant la tempête. Hein. Alors, je souligne. Là, il est déjà un peu. Le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. Alors, je vais quand même juste souligner un point sur la sanctification, parce que les auditeurs vont me dire, oui, mais vous ne parlez pas de la sanctification. Le pilier, c'est de se sanctifier mutuellement. Hein. Alors, là, il faut oui, oui et non. Hein. Je vous lis Lumen Gentium, chapitre 11, qui était le grand point du texte de Vatican II sur le mariage. Et donc, je vous lis un petit passage. Les époux chrétiens s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale par l'accueil et l'éducation des enfants, en leur état de vie et leur ordre. Ils sont le peuple de Dieu dans leurs dons propres. Voilà. De leur union, en effet, procède une famille où naissent des membres nouveaux de la cité des hommes, dont la grâce de l'Esprit-Saint fera par le baptême des fils de Dieu que le peuple de Dieu se perpétue tout au long des siècles. Il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'église, ce qu'on appelle l'église domestique, qui est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Voilà, donc ça c'est Lumen Gentium, hein, de rappeler une sanctification mutuelle. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est que on est déjà responsable de sa sainteté à soi, c'est déjà une chose. Et puis effectivement, on n'est pas vraiment responsable de la sainteté de l'autre, parce que respectons la liberté de chacun, hein, mais on s'aide à se sanctifier mutuellement. Voilà. Moi, je vous donne un exemple typique. Hein. Moi, quand c'est les vacances ou qu'il y a des projets, etc., si on dit, bon, ben, il faut, je sais pas, si on doit faire une randonnée, j'aurais. Plus maintenant, parce que j'ai évolué grâce à ma femme, mais au début, jeune marié, j'aurais plutôt dit, bon, bah attends, là, on pourra sauter la messe du dimanche parce qu'il faut qu'on aille faire une tournée en montagne. Bon, on ira à la messe lundi, puis ça remplacera la messe du dimanche, quoi. Voilà. Alors là, ma femme, elle me dit, oh là là, là là, qu'est-ce que tu me fais là? C'est important, le rendez-vous de la messe du dimanche, c'est Jésus. Alors, ta balade, elle est plus importante que l'invitation de Jésus, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui cloche, quoi. Alors, ah ouais, t'as peut-être raison. Bon, voilà. Alors, donc, on s'arrange, et puis finalement, on arrive à trouver, par exemple, une messe. On rentre un peu plus tôt et puis on va à la messe du samedi, du dimanche soir. Voilà. Mais on a célébré la journée du dimanche, qui est une journée importante pour les chrétiens. Voilà. Donc, si c'était moi, ben, j'aurais peut-être été dire, bon, on remplace par lundi, bon, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, vous voyez, donc, quand on a un conjoint qui est, par exemple, fidèle à la messe, comme ça, ben, ça vous aide, ou fidèle à la prière. Voilà, par exemple, je suis fatigué le soir, et puis il y a ma femme qui me dit, oui, mais Hugues, on n'a pas fait la prière, là. Ah oui, c'est vrai, on va la faire. Voilà, donc ça c'est bien, voilà, d'avoir quelqu'un qui vous remet un peu dans l'axe de ce que c'est que sa relation à Dieu. Donc, il vous aide. Voilà. Maintenant, si voilà, j'ai ma sainteté, ma femme n'est pas responsable de ma sainteté, hein, je fais mes chemins.
J'aimerais revenir sur la sanctification des époux qui va passer peut-être par la prière du couple et aussi du coup être un modèle pour les enfants qui vont voir leurs parents prier. Je vais prendre un cas qui, je pense, n'est peut-être pas le plus courant, mais qui doit quand même se retrouver de plus en plus. C'est lorsque les deux époux doivent travailler, mais ont des horaires décalés. Je vais prendre un exemple extrême. Prenons le mari qui, par exemple, est boulanger et son épouse qui est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. L'un va devoir se lever très tôt, voire dans la nuit, pour pouvoir aller faire le pain et du coup se coucher très tôt. Et sa femme va souvent finir tard, donc parce qu'il y a la fermeture du magasin, mais il y a d'autres choses à faire après la fermeture du magasin, et ils vont être tous les deux en horaire décalé. Comment, qu'est-ce que vous leur conseillerez pour trouver des moments pour prier ensemble?
Très bien, merci Sandra pour la question. D'abord, je vais, avant de répondre à la question, je vais répondre, je vais faire un préalable en disant que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est souhaitable de maintenir ces horaires décalés toute une vie? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est en gros… finalement, ils se voient pas quoi. Il y en a un qui part le matin, et puis l'autre il fait l'équipe du soir, et donc en réalité ils se voient jamais. Est-ce que c'est ça une vie de couple, une vie de famille, que de se voir jamais? Donc à un moment donné, moi j'ai le cas parce que mon fils a épousé une infirmière, hein, donc il fait les équipes de nuit, les équipes de week-end. Elle se pose des questions actuellement en se disant, bah, est-ce que je vais continuer comme ça avec les deux enfants, ou est-ce que c'est peut-être pas, est-ce que c'est pas mieux finalement que, ben, je maintenant que je suis maman et que j'ai des enfants, est-ce que c'est pas mieux qu'on puisse avoir de temps en temps des week-ends ensemble, et peut-être de changer d'horaire, donc de prendre quelque chose, de demander à l'hôpital une autre affectation, voilà, et laisser des infirmières célibataires faire les week-ends ou faire les nuits. Bon, donc ça déjà, c'est se poser la question, si votre mari est boulanger, ben, se dire, ben, au lieu de faire des ventes, je sais pas quoi, serveuse dans un bar de nuit, prendre justement peut-être qu'il y a plutôt un travail avec un autre horaire. Parce qu'on ne peut pas non plus ne jamais se voir. Donc ça, c'était déjà la première chose. Et je pense que ça, des vraies questions à se poser. Maintenant, pour des raisons économiques, vu la crise actuelle et celle qui est en train d'arriver devant nous et qui va être pas piquer des vers, évidemment, ben, on prend ce qu'on a et on va pas faire les difficiles. Mais ça va pour un temps, ça peut pas être trop long. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est que il est important d'avoir effectivement une prière de couple. Ça, c'est important de pouvoir prier ensemble quand les deux partagent la foi, parce qu'il y a beaucoup de couples où il y en a un qui partagent pas la foi, bah on prie seul parce qu'on a l'autre n'adhère pas à notre foi. Mais je parle de ce que vous dites, c'est-à-dire les deux qui ont la foi. Eh bien, il faut, je pense, c'est par des petits gestes. Moi, je le vois parce que je suis plus maintenant parce qu'on voyage plus, mais avant je voyageais tous les mois, je partais dans un pays du monde. Eh bien, par exemple, le soir. Tous les soirs, on fait une prière avec mon épouse. Voilà, on a un moment de prière qui est court, hein, ça va pas, ça dure 2 minutes, hein, c'est pas compliqué, mais on a un moment de prière. Bah, quand on est loin, par exemple, alors j'envoie sur WhatsApp, j'envoie un petit message, une petite icône comme quoi je suis en train de prier. Bah, elle sait que voilà, qu'on est unis par la prière. Voilà, donc elle me renvoie un petit message, voilà, si elle dort pas encore, ou parce que parfois il y a des Je suis dans des décalages horaires, mais c'est pas grave. Voilà, donc elle me répond le lendemain matin qu'elle était en union de prière. Donc des petits signes comme ça pour se dire, ben voilà, notre prière de couple, on l'a fait, mais chacun de notre côté, mais on l'a fait en pensant à l'autre, quoi. C'est juste ça, c'est pas plus compliqué que ça. Mais d'être fidèle à ça, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je partais le lundi, eh ben, j'ai toute la semaine à l'hôtel. Bon, ben, le soir, je fais ma prière, voilà, parce que je me dis, voilà, je fais ma prière de couple. Je suis pas ma prière personnelle, c'est ma prière de couple, hein, je fais. Mais on est séparés, et je sais que ma femme, elle le fait de son côté. Voilà. Mère Teresa disait, un couple qui prie est un couple indestructible. Je crois que c'est très très important cette notion de prière de couple. Voilà, de confier notre couple dans la prière, d'être fidèle à cela. Et donc chaque couple se l'invente, hein, c'est-à-dire voilà, nous on récite un Magnificat et on prie pour nos enfants, chacun de nos enfants. Voilà, puis c'est tout. Et puis bonne nuit. Voilà, donc c'est pas long. Il y en a, c'est un Je vous salue Marie, d'autres c'est un Notre Père. Voilà, il y en a qui sont un peu plus intello, donc ils se font des prières un peu plus compliquées, un peu plus longues, etc. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Mais c'est pas trop la longueur qui importe, hein, pour le Seigneur, mais surtout la fidélité, que on s'endorme pas sans avoir été fidèle à cette prière. Quand on a lu Tobie et Sarah dans l'Évangile, on comprend. Voilà, c'est avant de s'unir à Sarah, il va d'abord confier au Seigneur ce couple, et le couple ne mourra pas parce que le Seigneur l'aura béni. Hein, donc, demander que le Seigneur bénisse notre couple. Voilà sur cette question.
Nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à vous.
Oui, bonjour. Donc, je
Bonjour
vous ai
Anne-Marie.
écouté, là. Bonjour, je vous écoutais, j'étais en voiture. Et
Oui.
donc, alors moi, c'est tout à fait différent. Je suis divorcée. J'étais mariée 23 ans. Donc, il y a une
Oui.
séparation. Donc, je suis
Oui.
partie de mon côté. Et c'est
Oui.
vrai ce que vous dites. Quand on est séparé comme ça, et puis que l'autre ne comprend pas, alors on part, et puis alors on cherche l'amour. Mais on se trompe toujours d'amour, parce qu'on ne rattrape pas ça. Donc on cherche l'amour parce qu'on pense qu'on va être beaucoup plus aimé ailleurs, mais ce n'est pas vrai. Et donc,
Oui.
on part dans tous les sens, et on ne sait plus ce qui nous arrive. Et donc, moi, je me suis beaucoup raccrochée au Christ. Actuellement, je suis seule. La solitude est très dure. Et je m'aperçois qu'on s'accroche, mais la seule personne qui a pu vraiment me combler et vraiment me donner tout ce que j'ai quand je suis dans la solitude, c'est le Christ. Et c'est vrai que si l'autre ne comprend pas les lettres, eh ben on se perd. On se perd. Enfin, l'un des deux se perd un peu plus que l'autre. Je pense que je me suis plus perdue que lui. Beaucoup plus. Et c'est vrai que là, je suis partie pour aider des gens. J'ai été dans beaucoup de foyers actuellement pour des situations. Et je me suis aperçue que les couples, autant d'années, j'ai l'impression que comment ils se regardent, ils sont même plus dans l'amour. Ils savent plus, ils sont tellement dans la routine. Et pourtant, même s'ils sont croyants, pratiquants, je me dis que l'amour, c'est tellement compliqué si on n'est pas vraiment unis, vraiment unis, puis et discuter. C'est compliqué, quoi. Mais toute sa vie, j'ai l'impression que bah, c'est une blessure. Quand on est divorcé, c'est une blessure.
Oui, Anne-Marie, merci Anne-Marie pour votre témoignage, hein, qui est un témoignage. C'est pas facile, hein, c'est surtout
Non.
que la blessure remonte, ressurgit. Le mariage, c'est un projet. C'est un projet, c'est le projet de toute une vie. Moi, j'ai des jeunes là j'ai cinq enfants. Il y en a un seul qui est marié, les autres ils veulent pas trop, mais ils comprennent, ils sentent
Oui.
que c'est quelque chose d'important dans la vie, que c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Et quand on arrive au divorce, eh bien, c'est vécu comme un échec. Alors c'est là où c'est important. Je trouve dans la Bible, je trouve que c'est important de voir toujours ces rencontres de Jésus avec la femme adultère, avec la Samaritaine, par exemple. Vous voyez, la Samaritaine qui avait cinq maris et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. C'est quoi ce visage de Jésus ? C'est pour ça que Marie, je trouve que votre témoignage est très beau. C'est de comprendre que finalement, derrière tout cela, c'est l'importance de sa relation au Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui restaure, est celui qui fait relever. Quelle que soit notre difficulté, quel que soit notre parcours, je ne connais pas du tout votre histoire, etc. Il y a des histoires de couple, chaque histoire est unique. Il y a des histoires compliquées, il y a des histoires blessées. Ce sont parfois deux personnes très blessées qui viennent se rencontrer. On fera un topo ici là sur Radio Maria sur la psychologie, hein, de comprendre qu'on a des On est dans des psychologies blessées, mais si parfois là, donc la vie n'est plus possible, mais de voir que comment le Christ pose son regard et relève. Voilà, il pose son regard et il relève. Voilà, donc c'est pas simplement de dire tes péchés sont pardonnés. Hein, ça pourrait être le cas de la personne qui était allongé sur son grabat, vous voyez, donc il est malade et puis il fait un miracle et l'aveugle voit et le boiteux marche. Ça, on a... Mais ce n'est pas simplement ça, c'est aussi de se reconstruire. Vraiment, le Seigneur pose son regard et dit, ben maintenant, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, voilà, je t'aime, voilà, comme on a cette parole du Père à la transfiguration qui vient nous dire, je veux te transfigurer, je veux te faire aller debout, aller de l'avant. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas un coup de baguette magique, mais de bien comprendre. Et Anne-Marie, c'est formidable que vous avez évidemment tout de suite compris que le Christ est celui qui va vous relever. Voilà, on est un divorce, c'est tellement fort pour les conjoints, mais aussi pour les enfants. On ne se rend pas compte combien c'est important aussi, combien ça fait du mal aux enfants. Et voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, on se déchire et le Christ va venir nous relever, va venir nous faire repartir. Voilà ce que m'inspire votre témoignage. Alors merci Anne-Marie et puis je vous souhaite vraiment de vous accrocher au Christ, hein, pour continuer, parce que finalement au-delà de ça, c'est aussi de se dire le Seigneur, il veut une belle vie pour vous. C'est une vie cabossée là, hein, c'est une vie cabossée, c'est pas ce dont vous avez rêvé, mais que le Seigneur vous accompagne chaque jour, voilà, et qu'il vous remette bien debout, Anne-Marie. Merci pour votre témoignage.
Merci Anne-Marie, au revoir. Nous avons Marie-Céline qui souhaiterait intervenir. Marie-Céline, c'est à vous.
Oui, bonjour. Ben, écoutez, je suis vraiment très touchée par le témoignage de la personne qui est intervenue avant. J'étais sous ma douche, j'ai dit, il faut que j'appelle parce que vraiment, ce qu'elle vit, j'ai l'impression de l'avoir vécu aussi. Et c'est bizarre parce que quand j'étais en attente, là, tout ce que j'avais à dire, eh bien, la personne, l'intervenante, je ne me souviens plus de votre nom, et pardonnez-moi parce que je suis très...
Ça m'a touché très bien. Anne-Marie.
Oui, mais votre nom à vous.
Hugues Delier, voilà.
Parce que Hugues Delier, eh bien, ce que j'avais besoin de dire, justement, par rapport à la Samaritaine, et Jésus lui dit, va, ne pêche plus, c'est ce que je voulais parler aussi de ça, parce que c'est ce que je ressens en tant que divorcée, et que, ben oui, comme Anne-Marie, eh ben, j'ai cherché l'amour pendant très, très, très longtemps, et puis je l'ai cherché encore hein, quand j'étais avec mon mari pendant 23 ans, et finalement, je ne l'ai pas trouvé. Parce que je ne connaissais pas le sens de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et c'est aujourd'hui, avec la conversion que j'ai eue, que j'ai rencontré, pour moi, le sens de l'amour profond. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces paroles qui sont dans la Bible, qui nous aident, résonnent dans mon cœur. À chaque fois que j'entends la Bible, que j'entends lire la Bible, que je la lis moi-même, il y a des choses qui me parlent. Et c'est ça, je pense qu'il faut, en tant que divorcée, je pense que moi, aujourd'hui, je vis vraiment dans la vérité de la Bible. Et puis, toutes ces petites phrases que le Seigneur nous dit, Parce que ben, comme on a le cœur brisé, et puis quand on va à sa rencontre, c'est vraiment formidable. Et le Saint-Sacrement, la Bible, et puis les personnes comme vous, Hugues, qui nous donnent de quoi aussi manger, et puis nous dire, oui, vous êtes dans la bonne direction, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est ça, voilà.
Eh ben merci beaucoup Marie-Céline. Mais oui, c'est moi je dis que on a eu ça. C'était il y a deux dimanches, c'était ou trois dimanches. Hein, c'était je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades.
Hein,
vraiment le Seigneur de contempler cette croix en se disant, puisque là on est dans la période de carême. De se dire voilà, Jésus, bon ben il est monté sur cette croix, il a donné sa vie, il a donné toute sa vie pour moi, voilà, il a donné sa vie pour moi, et bien pour que je sois rempli de son amour. Et Marie-Céline, quand vous parlez évidemment de l'Eucharistie, eh bien voilà, c'est ce corps à corps que fait le Christ avec nous, il vient en nous. Alors bon, on ressent quelque chose, on ressent rien du tout. Moi, quand je communie le dimanche, je peux vous dire, je ressens mais absolument rien du tout. Mais il y a des gens qui eux ont cette grâce de peut-être d'être vraiment en communion avec Jésus. Hein, mais bon, j'ai peut-être pas besoin. Chacun ses grâces. Mais voilà, voyez de se dire qu'il y a une communion d'amour, mais aussi une communion corporelle que Jésus vient par son Eucharistie nous visiter. Voilà pour venir s'unir à nous, et j'invite vraiment à contempler Jésus en croix qui se donne. Voilà, c'est lui qui se donne. Voilà. Oui, Marie-Céline.
Oui, en cette période, c'est vrai que on a vraiment, en cette période de carême, on a vraiment ces ventres des saints là qui nous ont donné autour de la prière, et puis autour aussi du chemin de croix qui est vraiment très puissant. Et c'est là que moi aujourd'hui, je me rends compte que je suis toujours malade. Le Seigneur me guérit de quelque chose. Et oui, il m'a guéri vraiment de ce divorce là où je me sentais vraiment coupable. Et aujourd'hui, en entendant ces paroles, il m'a vraiment guéri en profondeur, et il m'a restauré, et il m'a donné une partie de ce qu'on m'avait volé. Voilà.
Et là, vous avez retrouvé la paix, la Marie-Céline, maintenant, c'est ça ?
La paix et l'amour. Alors, très souvent, je me dis, Jésus, mais aujourd'hui, je vis cette situation, et je pense souvent à l'Église, ce que dit l'Église, et je me pose des questions, pourquoi aujourd'hui j'ai retrouvé l'amour, et dans cet amour-là, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur maintenant, aujourd'hui, pour ne pas retomber dans cette spirale que j'étais pendant 23 ans, parce qu'on peut retrouver l'amour. Ça, je peux vous dire vraiment, on peut retrouver l'amour, c'est une certitude. Si c'est arrivé à moi, ça arrivera à d'autres. Et je suis très touchée par ces situations de personnes divorcées et qui cherchent encore l'amour, et moi je prie pour les couples, les couples divorcés, parce que j'en ai fait partie, et le Seigneur m'a donné une grâce, cette grâce de retrouver l'amour. C'est vraiment formidable, vraiment formidable. Oui, j'ai la paix, vraiment, une paix profonde, et une paix inébranlable de ce côté-là. Mais je suis toujours malade, donc je continue à aller à l'Église, à pratiquer le Saint-Sacrement, et puis l'Eucharistie, bien sûr, et l'adoration. Tout ce que le Seigneur me demande de mettre en place, le chapelet. Ce matin, j'ai vécu un moment magnifique avec ce chapelet du premier du mois. C'est quand même fort, voilà. Et je crois que c'est ça qui nous construit, c'est rencontrer des personnes en tant que divorcées, rencontrer des couples qui parlent, comme vous faites, et puis des personnes qui nous parlent de tout ce que Jésus nous a mis en place, quelle que soit notre situation. Et de toute façon, notre situation est déjà écrite dans la Bible. Donc quand on ouvre la Bible et quand on écoute, chaque situation nous rappelle et nous permet une guérison. Voilà.
Mais merci beaucoup pour ce, Marie-Céline, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez, voilà, pour votre témoignage.
Et puis je remercie Radio Maria, parce que c'est vraiment formidable d'avoir des émissions comme ça qui nous fait grandir et qui nous guérit aussi. Dans le monde invisible, vient nous toucher notre cœur, voilà.
Très bien.
Merci beaucoup Marie-Céline, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Hugues Dollier, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais juste une petite phrase que je pense importante. Aimer Alors, ça va peut-être un peu choquer certains, mais c'est pas grave. Aimer son conjoint, c'est l'accepter comme il est. Je crois que c'est pas choquant, mais dans le sens où on reviendra sur. Il y a des cas particuliers où les conjoints sont insupportables. Il faut pas accepter l'inacceptable, hein, je veux dire. Mais on a compris. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que le jour de notre sacrement de mariage, on prend notre conjoint comme un cadeau de Dieu. Et on se dit, bah, il est comme ça et je l'accepte comme il est, je ne vais pas le changer, je ne vais pas le faire devenir comme je veux qu'il devienne. Et ça, aimer, accepter l'autre comme il est, c'est une grande, grande preuve d'amour. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais laisser un peu comme conclusion, parce que c'est tellement important, sinon on a des malentendus et des malentendus qui durent et qui durent. Donc voilà sur quoi je voudrais terminer. Et puis voilà, et puis remercier Anne-Marie et Marie-Céline pour leur beau témoignage.
Merci beaucoup, Hugues.
Au revoir, Sandra.
Au revoir.